se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, l'iPhone 12 64Go reconditionné est à seulement 299€.
À ce prix-là, ça me fera un super cadeau de fête des mères.
En donnant une seconde vie à un produit reconditionné en France par les experts PRS.
Elle est pas belle, la vie ?
Auchan, avec plaisir. 50€ de remise immédiate sur l'iPhone 12 64Go reconditionné grade B, soit 299€ au lieu de 349. Valeur du DAS sur Auchan.fr. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Kit main libre recommandé.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commence tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Et on va parler de la fermeture de l'autoroute A13. Est-ce l'enfer ou le paradis? Depuis le 18 avril, une portion de l'autoroute A13 se trouvant à l'entrée de Paris est fermée jusqu'à nouvel ordre à cause de fissures sur la chaussée. Des cyclistes et des joggeurs l'ont donc investi, cette autoroute. Et l'adjoint à la mairie de Paris, David Béliard, s'en est félicité sur Twitter en estimant que le tout voiture nous empoisonne et nous emprisonne. Des propos inacceptables pour l'avocat Charles Consigny.
Ce qui est affreux, c'est que ça montre que, en fait, ce sont des fanatiques, ces gens-là. Ce sont des talibans de l'écologie. Ils ne pensent pas intérêt général, objectivité, efficacité. Ils pensent idéologie, fanatisme, punition. Aller se réjouir bêtement qu'il y ait trois pelés sur un tronçon d'autoroute en train de faire de leur jogging en disant c'est formidable, machin. Pour moi, c'est du fanatisme. Les autoroutes sont quand même aux dernières nouvelles faites pour que les gens puissent prendre leur bagnole, qu'elle soit, elle peut être électrique d'ailleurs, la voiture, n'en déplaise à Monsieur Béliard. L'atteinte, la liberté d'aller et venir est encore, sur le plan théorique, une liberté constitutionnelle.
Que ça.
Alors, la fermeture d'autoroute A13, est-ce que c'est l'enfer ou c'est le paradis finalement, Robert Sebag?
Taisez-vous, monsieur Béliard. Taisez-vous, on vous prendra au sérieux quand vous plaindrez les automobilistes qui passent des heures depuis la fermeture de cette autoroute dans des voitures. Il y a des personnes âgées, il y a des enfants, il y a des personnes malades. C'est un scandale. Et je vous prendrai au sérieux, monsieur Béliard, quand vous supprimerez tous les autobus qui restent le moteur allumé pour maintenir la climatisation dans les rues de Paris et qui polluent absolument. Là, vous serez pris au sérieux. Pas en disant ces bêtises pour quelques personnes qui sont en trottinette et qui courent sur l'autoroute. Ça suffit.
Bon, alors après, Robert, juste pour désamorcer un peu ce conflit, ça se passe plutôt pas trop mal. Il n'y a pas beaucoup plus de bouchons que d'habitude. C'est-à-dire qu'on pensait que ça allait.
C'est normal, quand tu le sais, tu ne vas pas. Hein.
Oui, bah non, mais j'entends.
Évidemment,
mais
tu sais qu'à la 13 est fermée, tu ne vas pas, à moins d'être complètement débile. Tu ne vas pas essayer de prendre la 13 si elle est fermée.
Non, mais ça, j'entends. Mais en fait, il aurait pu y avoir un engorgement des voies adjacentes, et ce n'est pas trop le cas, tu vois.
Mais tu n'y vas pas. Tu sais que c'est le bordel, t'y vas pas.
Mais tu vas bien à côté, si tu
veux. Mais c'est comme les jours où tu sais, on t'annonce grève, bloqué, machin. Bah, c'est
le travail, augmentation du télétravail.
Hop là, dans Paris, le périph, c'est fluide et ça roule comme dans du beurre. Bah oui, c'est normal, les gens restent à la maison, tu sais que tout est bloqué. Bah oui.
Mais
même pas. Là où les propos de David Béliard sont absolument stupides, c'est que le trafic automobile continue de la même façon. Il y a peut-être deux, trois personnes qui ont décidé de changer leur habitude, mais il y aura autant de... C'est absurde, parce qu'on a fermé un bout de voie, il a gagné politiquement, parce que du coup, les gens sont restés chez eux, n'ont pas pris leur voiture, mais il prend les gens pour des crétins. Enfin, c'est absolument absurde. Voilà.
Non, il se félicite qu'il y ait des joggeurs sur l'autoroute.
Non, mais attendez, quand son monde à lui, qui est un monde de contraintes, qui est un monde de peur, qui est un monde de privation, qui est un monde d'interdiction... Ces gens-là sont des inquisiteurs. Alors, heureusement qu'il n'y a pas les bûchers, mais ils nous mettent sur des bûchers moraux, à un moment donné. Ils nous brûlent parce qu'on prend la voiture. Il y a des gens qui prennent la voiture parce qu'ils en ont besoin pour vivre. Et que le système social que Monsieur Béliard défend n'apporte pas la solution à cette réalité économique. Donc, il mesure ses paroles. Il a un poste très important. Je regarde que cette grande ville mondiale qu'est Paris soit aux mains de gens aussi incompétents, aussi sectaires et aussi doctrinaires.
Non mais après, il est écolo, il peut se féliciter du fait de voir des joggeurs, effectivement, trois trottinettes et trois vélos sur l'autoroute.
Il ne peut pas plaindre les gens qui sont dans les bouchons.
Non, ça je crois qu'il peut pas.
Ils me font peur au pouvoir. Si un jour ils ont le pouvoir, ils me font peur. Eux, j'ai peur d'eux.
Bon, enfin, ils n'y sont pas encore. Périco, ça va aller. On ne fait peur parce que c'est quand même... Ah. Encore une fois, ce n'est pas hyper grave.
Non, parce qu'ils passent à l'acte, ces gens-là.
Ça
faisait beaucoup les promesses qu'ils ont pas tenues.
Il ne va pas fermer la 13.
La classe politique, c'est des promesses pas tenues. Voilà. Là, ça sera des promesses tenues.
Mais c'est parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, parce que sinon, c'est évidemment qu'ils fermeraient.
Si les écolos étaient au pouvoir, ils ne fermeraient pas les autoroutes, tu vois. Je ne crois pas.
Ils sont capables de tout, ça qu'on les reconnaît.
Moi, je me réjouis de cette phrase de David Belliard. J'aime quand ces gens-là parlent. C'est pourquoi, parce que ça permet de comprendre qui ils sont.
Ils se dévoilent.
Comme ça, au moins, ils se dévoilent. On sait que ce sont des fanatiques absolus, de dangereux extrémistes, totalement idéologues. Et tu sais, quelque part, bon, il y a quand même, là, pour les Européennes, grosso modo, 8% des gens qui s'apprêtent à voter pour les écolos.
Ah oui.
Comme ça, peut-être qu'ils perdront 1 ou 2% de gens qui ne sont pas fanatiques, qui sont écolos, qui se soucient
de
la planète.
C'est aberrant de voter écolo aux Européennes, si c'est aberrant.
Ah bah pour des gens comme ça, si.
Qu'est-ce que je viens de dire, Estelle? J'ai dit qu'il y a des gens qui se préoccupent de l'écologie, très bien, mais qui doivent savoir que eux ne sont pas les défenseurs, parce que ce sont des fanatiques.
Donc ça dépend lesquels.
Ben, je te dis qu'en tout cas, David Belliard en est un. Et tu sais, quand il y a le débat sur les JO, ça va marcher, ça va pas marcher. Quand on se plaint de la phrase qu'on entend un peu trop souvent, oh je vais fuir, je veux m'en aller, je veux pas être là, qui est une phrase quand même très négative pour cette immense fête que doit être l'organisation de ces Jeux Olympiques une fois tous les 100 ans. Mais qui a provoqué cette réaction là? Qui fait qu'on a peur des JO? Qui fait qu'on a peur d'être à Paris et qu'on veut tous s'enfuir parce qu'on se dit que ça va être un bordel incroyable et qu'on va pas s'en sortir? Ce sont eux, c'est
bien
la bande à Hidalgo. C'est eux qui ont transformé et qui font craindre le pire dans Paris.
D'accord.
Au-delà des problèmes de sécurité, tous les problèmes de circulation, de machins qui vont pas marcher, de voitures. Oui, mais qu'est-ce qui a fait? Qui a créé ce climat de sinistrose totale? Hidalgo et sa bande?
Bah, je sais pas.
Ah ben si, moi je te le dis.
Bah, c'est les stations de métro qui sont fermées, qui seront fermées toutes les JO, c'est une réalité.
Moi je te le dis, c'est Hidalgo et sa bande qui font peur, qui concrètement font peur à tout le monde, parce qu'ils voient tous ces travaux partout, ces routes qui sont bloquées, et le fait qu'on n'avance pas dans Paris.
Oui,
bah c'est la bande à Hidalgo.
RMC Sport hier soir sur RMC, le PSG sacré champion de France pour la 12e fois. Est-ce marquant ou insignifiant? Depuis hier, le club de la capitale a remporté une nouvelle fois le championnat de Ligue 1 pour la 12e fois de son histoire. C'est en fait grâce à la victoire de Lyon sur Monaco. Mais cet événement était complètement insignifiant pour les membres de l'After hier soir sur RMC.
Il y a quand même un petit point au passage chez l'équipe du PSG quand même, qui est sacré ce soir et qui passe du coup totalement inaperçu.
Pardon Stéphane, mais alors c'est passé
c'était une grosse surprise en même temps.
Comme a dit, c'était champion depuis hier soir et c'est vrai qu'ils sont champions de toute façon.
Ils sont champions depuis le début du championnat.
J'ai déjà prévu mon avis pour ça demain soir.
Depuis le mercato, ils sont champions.
Mais non, c'est vrai qu'ils sont champions.
Robert Sebag, vous êtes fan du PSG, vous êtes heureux de ce 12e titre ou vous en foutez complètement parce qu'en vrai, on savait qu'ils allaient être champions, quoi?
Non, c'est pas ça. Moi, j'attends, c'est mercredi soir, quoi.
Oui, donc vous en foutez.
Je savais, c'était prévu depuis très très longtemps. Par contre, la demi-finale, la césarion finale, ça fait 10 ans qu'on attend. On a vraiment envie que.
Voilà, demi-finale.
Niveau Graal, quoi.
Demi-finale aller de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund.
Vous, on en parlait ce soir
ce sera
quand
mercredi.
Même. Hier, il y avait beaucoup de matchs, c'est pour ça qu'on a parlé de ça. Et des matchs extraordinaires hier après-midi. Mais ce soir, on en parlera. Bref. Et pour ma part, j'expliquerai pourquoi, malgré tout, il est quand même un petit peu différent, ce titre-là.
Mais je suis d'accord, mais toi,
il est extrêmement positif. Et il plaît beaucoup plus aux supporters que l'année dernière ou l'année d'avant.
C'est sûr, mais moi, tu vois, hier, j'étais avec mon fils qui est dingue du PSG et je lui dis ah, t'es content et tout, le PSG est champion. Il me dit mais enfin, maman, on le savait. Bon, super.
Oui, il n'empêche qu'il a une saveur qui est un peu différente de ces dernières années.
Voilà,
il est meilleur en goût.
Star, en fait.
Il est meilleur en goût.
C'est une équipe sans grosse star.
Le problème n'est pas
Neymar
les stars, le problème est le comportement qu'ont les stars. Et là, le collectif et l'esprit qu'a dégagé cette équipe fait plaisir.
Et force est de constater que ça marche. Perico, les gars, j'imagine. Ça vous en touche une sans faire bouger l'autre.
Suivant.
Très bien.
Oh, merci, voilà.
Vous en fichez, le PSG champion de France.
Rien à cirer.
Oui, mais regardez, Brest, ce petit club de Brest, il va être européen. Ça vous parle.
Brest.
5 à 4.
Voilà. Ça vous parle.
Bah, quand même.
Et vous voyez, bien sûr,
c'est
le syndrome petit poussin.
Ils n'ont pas de stade pour accueillir l'Europe, les pauvres.
T'inquiète pas.
J'en ai les yeux en vue et rien d'y penser.
D'accord.
Les GG ce matin sur RMC. Faut-il stopper le financement public de Sciences Po? La semaine dernière, une minorité d'étudiants de la célèbre école parisienne avait bloqué les cours afin de protester pour la cause palestinienne. Une cause soutenue par la France Insoumise, mais également par le guide suprême iranien. La direction a finalement trouvé un accord avec eux pour faire cesser ces blocages, ce qui indigne de nombreuses personnes, à l'image de Baudouin et des auditeurs RMC dans le Loir-et-Cher.
C'est lamentable que Sciences Po soit occupé de la sorte. Ce serait bien qu'on arrive enfin en France à avoir une position ferme, forte et courageuse, d'arrêter de se laisser enquiquiner pour rester poli par ces fauteurs de troubles. Parce que on s'aperçoit qu'en fait, la cause palestinienne est complètement discréditée, puisque maintenant, elle est à la solde des barbus. Et qu'est-ce qu'on voit quand on écoute les petits gamins là, de Sciences Po et compagnie? C'est que certes, on est au-delà du kéfier maintenant. C'est carrément des femmes voilées, et la cause palestinienne, elle a disparu au profit de la cause du Hamas qui pratique un emprisme hyper dangereux. Et on ne s'aperçoit pas qu'en fait, on va tout droit, si on va un peu plus loin dans le débat, on va tout droit vers une guerre de religion.
Voilà, Baudouin, un auditeur très, très alarmiste hein, sur Sciences Po et sur le reste. Faut-il stopper le financement public de Sciences Po, Perico Légas?
Alors, l'école des sciences politiques, Sciences Po, est liée à l'histoire de la République. Elle est le vivier dans lequel la France a trouvé, plus que l'ENA encore, ses grands esprits, ses grands gouvernants. C'est la classe,
souvent on fait les deux.
C'est l'école de l'honneur de la République. On va tout simplement repartir à zéro, on la ferme, on la rouvre, et on dégage des gens qui n'ont rien à y faire. Alors, on fait des critères de sélection, on s'assure.
Mais ils ont été sélectionnés, ces gens.
On la ferme telle qu'elle est.
Ils ont tué... la ferme carrément.
Trois jours, symboliquement. Ils ont tué Sciences Po, on détruit cette école-là qui n'est plus Sciences Po, qui est un espèce de truc hystérique, totalement récupéré et détourné de sa vocation, alors que c'est l'école de la démocratie, de la tolérance, du respect du prochain, du débat démocratique, on est d'accord. On la rouvre avec un statut, avec une charte, avec des contraintes terribles, et on retrouve la grande Sciences Po. Mon père a fait Sciences Po, mon épouse a fait Sciences Po. Je sais les gens, j'ai déjà mis de Sciences Po. C'est des gens exemplaires, et c'est grâce à Sciences Po qu'ils le sont. On va pas laisser à des petits merdeux, à des petits voyous, à des salauds, le fait de souiller cette école. Donc on la ferme, on la rouvre dans des bonnes conditions.
Encore une fois, hein, c'est une minorité d'étudiants de Sciences Po. On a l'impression que c'est tout Sciences Po, mais c'est une minorité. Robert Sebag.
Vous êtes obligé, Estelle, de remonter un petit peu en arrière, parce que la déchéance de Sciences Po, elle a commencé avec M. Decoin, qui a supprimé les oraux, qui a supprimé l'épreuve générale. Ensuite, il est mort.
Qui a fait rentrer aussi des élèves qui, avant, ne rentraient pas à Sciences Po.
Il y a une discrimination. Voilà. Il y a à la fois une discrimination positive pour faire rentrer les gens de banlieue, mais une discrimination négative sur les gens des beaux quartiers, les élites des grands lycées. Ensuite, après, il y a eu monsieur, il est mort. Il y a eu Olivier Duhamel, le scandale d'Olivier Duhamel. Après, il y a eu monsieur Vichra, lui aussi un scandale. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, elle n'est plus gérée vraiment, cette école. Et deuxièmement, c'est le deux poids deux mesures, si vous voulez. Où était Sciences Po quand il y a eu Bachar el-Assad à bombarder chimiquement les populations avec l'aide des Russes? Pas un mot. Les Ouïghours, pas un mot. Les Rohingyas en Birmanie, pas un mot là-dessus. Quand c'est Israël, alors on peut le dire, moi je suis contre ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, mais il y a quand même deux poids, deux mesures.
Absolument.
L'amphithéâtre de Sciences Po, qui avait un an, on l'appelle l'amphithéâtre Gaza. On permet à M. Mélenchon de venir, mais dès que c'est M. Kepel, Madame la femme de Jospin, Agassi, ou celle qui a écrit un livre sur les fleuristes, ils sont interdits. Elle est où la liberté d'expression? Elle est effectivement à sens unique. J'aurais voulu que ce matin, il y a une répression énorme aujourd'hui en Iran contre les femmes. J'aurais voulu que les gens de Sciences Po, ils sortent dans la rue aujourd'hui pour se plaindre de
le
ce qui se passe en Iran.
Qui va être pendu.
Pas du tout, pas du tout. Donc le deux poids, deux mesures, je suis très triste de le dire, mais je crois que Perico a raison, il faut reprendre tout ça à la base et modifier un petit peu. Et donc, je suis contre la subvention publique, c'était votre question.
Je voudrais juste rajouter quelque chose. Richard Decoin, il a ouvert Sciences Po à des élèves qui avant ne pensaient même pas qu'ils pouvaient atteindre Sciences Po. Ça n'a pas fait baisser le niveau. Et encore une fois, c'est pas forcément ces élèves de banlieue dont vous parlez qui sont en train de manifester. C'est peut-être aussi.
Il n'a pas dit ça. Il y a plein de fils de bourgeois du 6e et du 7e dans cette manif.
Personne
n'a dit ça. Pas de faux procès parce que ça éliminera le vrai problème si on fait ça.
Je suis désolée, mais je veux
que tu le précises. C'est très bien.
Parce que quand on parle effectivement du fait que Sciences Po soit ouvert à tous,
la majorité, c'est même des fils de bourgeois.
Merci de dire.
J'ai donné des cours à Sciences Po, donc je suis ravi de ça, si vous voulez. Je dis qu'il y a une discrimination positive, il y a eu aussi une discrimination négative, et que malheureusement la suppression des oraux, la suppression de la culture générale, la suppression de l'anglais, etc. Voilà. Ça
c'est
a baissé
plus ça
un petit
le problème, c'est pas l'ouverture.
Le problème,
voilà,
le problème il
tout.
Est là.
C'est
et,
tout, mais vous avez raison.
Je voulais
est-ce
apporter
qu'on
une petite précision.
Est-ce qu'on n'a pas tout dit quand on dit que le guide suprême iranien a soutenu ce mouvement initié par 200 crétins?
C'est
le guide suprême iranien. Mais est-ce qu'on se rend compte
aujourd'hui,
en France, Sciences
Po,
le guide suprême iranien soutient des gens
Sciences Po
qui sont soutenus eux-mêmes par LFI? Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on dit quand on dit ça?
Sciences Po est aujourd'hui l'entité où s'exerce le vrai fascisme français. pas ailleurs.
N'exagérez
là.
Pas.
Le guide suprême iranien, mais qu'est-ce j'assume qu'on veut de plus que ça?
Il y a des répressions aujourd'hui
en Iran. Qu'est-ce qu'on veut de plus que ça?
Ils sont où les étudiants de Sciences Po devant la porte?
Le chef des Mollahs soutient ce mouvement.
Ce mouvement.
Alors, mais qu'est-ce que tu veux dire de plus que ça?
Ensuite, on passe dans un point Godwin, donc on va sortir là.
Alors, petite info, Paul Lassen.
Oui, une manifestation pro-palestinienne a lieu en ce moment à la Sorbonne. L'Académie de Paris vient de décider de stopper les cours et les examens qui étaient prévus aujourd'hui sur le site.
Et voilà. Une minorité qui prend en otage tous les autres.
On va terminer avec un sujet un petit peu plus léger. Apolline Matin, ce matin sur RMC. Partagez-vous vos plats faits maison sur les réseaux sociaux. Une application a compilé les plats et les desserts les plus publiés par les Français sur leurs réseaux sociaux. Et Charles Magnin nous en a dévoilé le classement ce matin sur RMC.
Dans le top 10, 7 desserts avec tout en haut du classement, la crème brûlée. Mais oui, c'est la recette la plus populaire et la plus partagée sur les réseaux.
Ah, peut-être mais peut-être parce que c'est belle. Compliqué à faire. C'est pour ça que vous la cherchez. Les gens sont fiers. Vous googlez, quoi.
On en est fiers et puis c'est joli aussi. Mmh, c'est juste devant c'est les crêpes, Apolline.
Ah, mais moi j'ai un avis là-dessus. Elle a une crêpe bien à la maison. Oui. Par exemple, je ne laisse jamais reposer la pâte. J'ai jamais compris pourquoi on la laissait des heures.
Ah, bah ça... si, pour que. Bon, ouais. Vaste débat. En troisième place, le foie gras. C'est l'un des trois mets salés de ce top 10 dans lequel on retrouve aussi la raclette et le croque-monsieur. En revanche, énorme succès donc de la pâtisserie, hein. Les madeleines, le millefeuille, le Paris-Brest ou encore les macarons qui sont tous dans le top 10.
Bien sûr qu'il faut laisser reposer la pâte à crêpes, Perico, dites-lui à...
Très bizarre ce classement quand même.
Bah oui, c'est n'importe quoi.
Alors on prend un risque à ne pas la laisser reposer, bien sûr. Là, ça se défasse, voilà. Ouais. Faut pas laisser trop longtemps. Alors,
Perico, est-ce que vous prenez vos plats faits maison des fois en photo, là, comme ça, sur les réseaux sociaux?
Alors, j'inaugure, là c'est incroyable que ce sujet soit là.
C'est incroyable.
À la demande générale... sur des pétitions et des manifestations de masse, je vais aller sur Instagram, mettre une fois par semaine mon plat de la semaine.
Ah, génial!
Avec le bœuf Wellington.
Mmh. Ah oui, c'est pas facile.
Ah, tu commences avec un truc anglais.
Que j'ai raté, donc bravo. J'ai dû refaire trois fois avant de réussir. Et voilà, j'ai la belle photo. Et je vais enfin,
on m'a dit, vous donnez votre recette,
ma recette, et mon commentaire historique et tout, voilà.
Ah là là, comme Vincent Fernieu, François-Régis Gaudry, ou encore Laurent Mariotte.
C'est française de commencer par le bœuf Wellington.
Oui, mais ça c'est un peu dommage. Vous auriez pu commencer par un foie gras maison, par exemple.
Oui, mais c'est la bataille de Waterloo va bientôt se célébrer le 15 juin, donc le temps qu'on.
Ah oui, d'accord. Bon.
Ouais, d'accord.
Daniel, est-ce que vous montrez les. Vous mettrez
jamais. Je voudrais juste faire un commentaire là-dessus. Très grande nouvelle. Mais effectivement, vous avez vu sur le plan nutritionnel, c'est une catastrophe.
Ah ben ça c'est sûr.
Voilà,
c'est que vous voyez. On va pas mettre une salade de blettes, sur Instagram, ça n'a aucun intérêt. On met des trucs un peu gras. Daniel, toi, jamais de photo de plat.
Écoute, très franchement, je pense que je pourrais parce que c'est une de mes passions et j'attends d'être sponsorisé.
Et les gens attendent ça.
Donc, si des marques me sponsorisent, je me lance, je fais.
On va s'en occuper.
T'as vu l'appel un peu là?
Ouais.
Là, il y a un vrai appel.
Moi, je mets que des photos de raclette. Soit ça, je suis sûre qu'il y a pas de.
Ah, là, c'est sûr, il n'y
a pas trop de soucis.
Attention, la raclette, il y a beaucoup de risques. Une mauvaise charcuterie, un mauvais fromage,
a priori un
plat pas bien dressé,
a priori
une machine qui a pas bien chauffé avant de mettre le fromage dedans. Il y a quand même des détails.
Tout compte.
Tout, il y a un détail. Tout
compte, y compris l'audit.
Dans un instant, RMC s'engage avec vous, avec Amélie Rosier, qui a une enquête sur le parcours du combattant de nombreux couples qui n'arrivent pas à avoir accès à la PMA. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.